C'est toujours plaisir quand on arrive quelque part de dire qu'on soit accueilli en disant « Bienvenue chez toi ». Cela, on se sent vraiment accueilli. Alors c'est vrai que notre cœur reste à Gobert. Il y a même Jean-Marie me disait qu'il avait reçu des mails de moi d'il y a 3 ans. Mais si vous en avez reçu, en fait, c'est une erreur. J'ai reconfiguré ma boîte mail. Et ça a envoyé des anciens mails. Bon. Dans la série informatique, il y avait aussi, vous savez, il y a quelque chose qui se trouve dans le nuage. Quand vous sauvegardez vos données, eh bien, je ne sais pas pourquoi, c'est ressurgi des archives .org de mai 1999, les 150 ans de l'Union. C'est cette semaine. Bon. Je lui ai dit à Isabelle, c'est un signe qu'on doit aller à Gobert. Elle me dit, on n'a pas besoin de ça. Elle a raison. Mais mettons-nous à l'écoute de la parole qui est une parole de vie, qui nous rend la vie. Je vous inviterai à méditer ce matin sur le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, les versets 1 à 5. Philippiens 2. 1 à 5. Prions. Seigneur, tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Et nous venons vers toi parce que nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de cette parole de vie. Seigneur, que cette parole de vie nous rafraîchisse, nous régénère, nous mette en marche à la suite de Jésus-Christ. Amen. Je lirai dans la traduction de la Bible « Parole de vie » qui me semble bien rendre la dynamique de cette interpellation de Paul aux Philippiens. Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage. Son esprit vous unit. Votre cœur est plein de tendresse et de compassion les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même âme, littéralement, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont plus importants que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Votre pasteur m'a dit qu'il avait commencé une série sur l'Épître aux Philippiens et je me suis dit, je rentre dans ce service de la parole en continuant cette Épître à la méditer avec vous. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ce n'est pas à une petite unité entre amis que le Christ nous appelle. Que Paul rappelle. L'Église est appelée à une pleine communion de cœur et de vie, une pleine communion. On se dit, il y a encore du travail dans toutes les Églises. C'est pourquoi Paul prie au chapitre 1 que votre amour augmente. Il y a du travail. Mais quelle est la clé de cette communion? La clé de cette communion, c'est de se mettre dans la position du serviteur. Un serviteur qui aime son maître, qui veut faire sa joie. Un serviteur qui ne veut pas dominer ses frères, mais les servir avec amour. L'Église doit sa vie au Christ, qui par amour s'est fait serviteur. À donner sa vie. Sans service, pas d'église. Sans le Christ serviteur, pas d'Église. Et sans l'Esprit du Christ, qui nous donne un esprit de service, plus d'Église. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Mais pas n'importe comment. Nous sommes appelés à servir par amour. Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Et cette parole de Paul dans l'Épître aux Galates résume bien le message que veut faire passer Paul ici dans Philippiens. Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Ce service dans l'Église ne doit donc pas être un service uniquement par devoir, devoir qui serait pénible. On ne peut pas servir le Christ par devoir, mais par amour. Mais est-ce si facile de distinguer le devoir et l'amour ? Est-ce qu'après tout, l'amour n'est-il pas un commandement, donc un devoir pour le chrétien ? Une membre de notre Église m'avait signalé une dame qui était venue quelquefois à l'Église et qui était à l'hôpital en fin de vie et qui réclamait la présence du pasteur. Voilà. Alors, si je fais une analyse, j'y suis allé par devoir. Je connaissais à peine cette dame, mais ensuite, quand je me suis assis à ses côtés, que je lui ai pris la main, alors là, j'ai été saisi de compassion. Le Seigneur m'a rempli d'amour et de compassion pour elle. Je ne crois pas qu'on puisse séparer l'amour et le devoir, mais l'amour nous met en mouvement. Tu dois le faire, tu dois aller par amour voir cette femme qui a besoin de compassion. Paul écrit cette lettre aux Philippiens qu'il connaît bien à cause de l'amour qu'il a pour eux. Et il les aime et il leur dit, c'est étonnant, Philippiens 1, verset 8, « Je vous aime tous avec la tendresse du Christ Jésus. » C'est impressionnant, avec la tendresse du Christ Jésus. Ça me rappelle un film italien avec l'acteur Marcello Mastroianni. Et c'était après la mort de sa femme. Son fils faisait des reproches à son père par rapport à sa relation avec sa mère, son épouse. Et le père se défendait en disant « Mais je l'aimais !» Et le fils lui a dit « Il fallait lui dire. » Ça m'a marqué. Voilà, c'est... Oui, quand on aime, il faut le dire. Mais si Paul parle avec affection aux Philippiens, il ne la joue pas à l'affectif. « Allez, mettez-vous d'accord, faites-moi plaisir. » Non. Il dit « Ne faites pas ça pour moi, faites ça pour le Christ. » Parce que le Christ vous a donné la force d'aimer. Le Christ vous rend fort, on peut le voir aussi comme une affirmation, c'est de toute façon une question rhétorique à laquelle la réponse est oui. Le Christ vous rend fort, oui, bien sûr, c'est le Christ qui vous rend fort. Remplissez-moi de joie. L'amour véritable produit la joie. Alors la base de l'amour, c'est de connaître le Christ et de se connaître aussi les uns les autres. Le Christ nous appelle à servir avec affection, mais pas à l'affectif. Il nous appelle à avoir... Alors, un problème de traduction en Philippiens 2, 5, est-ce que à avoir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ ou à nous conduire comme des gens unis au Christ ? On le verra. Mais en tout cas, nous sommes appelés à servir avec les amis du service, l'amour, l'humilité, l'unité. Alors, la base de l'amour, c'est la connaissance du Christ, tout d'abord. Quand on parle d'amour, il faut peut-être préciser, parce que le mot amour évoque spontanément en nous les sentiments d'amour. Alors, L'amour chrétien, c'est d'abord un amour en acte. Le Christ s'est donné, a donné sa vie par amour. Mais en même temps, l'amour chrétien ne se résume pas aux bonnes œuvres. Il y a un passage étonnant dans l'hymne aux Corinthiens, au chapitre 13, hein, l'hymne à l'amour, où Paul dit « Si quelqu'un a donné tous ses biens pour les pauvres, eh bien, s'il n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. » Donc l'amour, ce n'est pas non plus, ça ne se résume pas aux bonnes œuvres. Non, l'amour est en relation avec le Christ. C'est qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me pousse? Est-ce que c'est l'amour du Christ qui me pousse? C'est ça la question. Bien sûr, hein, nos motivations sont jamais parfaitement pures, mais voilà, le fond, quel est le mouvement qui me pousse à agir ainsi, à parler ainsi? Est-ce que c'est l'amour du Christ qui me pousse? En tout cas, poussé par l'amour du Christ et leur amour pour Paul, et l'un n'est pas opposé à l'autre, et parce qu'ils aimaient le Christ, parce qu'ils aimaient Paul, eh bien ces Philippiens ont secouru Paul dans sa prison. Dans les prisons, à l'époque, on ne donnait pas à manger aux détenus. Il fallait que ce soit la famille qui apporte à manger. Donc, ils ont manifesté concrètement leur amour pour Paul en lui permettant de vivre. Mais l'amour chrétien, vous le savez, ne consiste pas seulement à aimer ceux qui nous aiment. Ça, c'est facile. C'est un risque dans l'Église aussi, d'aimer seulement ceux qui nous aiment. Mais oui, mais l'amour du Christ nous appelle à aimer tous, même nos ennemis. Alors, on n'a pas d'ennemis dans l'Église. Paul dit quand même, supportez-vous les uns les autres, avec amour. Oui, l'amour du Christ nous invite à un amour large. Et c'est pour ça que Paul prie que votre amour augmente en vraie connaissance et en pleine intelligence. Alors c'est intéressant que Paul associe l'amour et la connaissance et l'intelligence. L'intelligence de l'amour. Tu as prêché là-dessus, Christian. Et la traduction Parole de vie est très parlante. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux. Et le jour où le Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. Verset 11. Avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes. Avec l'aide de Jésus-Christ. Voilà, c'est un amour, ce mouvement de l'amour vers le Christ, eh bien, il nous donne la sagesse pour poser les bons actes, les actions justes qui seront à la louange de Dieu quand le Christ reviendra. L'amour, ça rend intelligent. Il y a des gens qui pensent le contraire, mais si, ça rend intelligent l'amour. Alors, le Christ, par son amour, nous donne la force d'aimer. Le Christ vous rend plus fort, son amour vous donne du courage. Et parfois, il faut vraiment la force d'aimer. Il y a un très beau livre de Martin Luther King qui s'appelle « La force d'aimer ». Et parfois, on n'a plus la force d'aimer. Parfois, l'amour s'use. Alors, ce qui me frappe dans ce passage, et ça répond à cette usure de l'amour naturel en nous, c'est que c'est l'amour du Christ qui nous donne la force, mais aussi l'amour des frères. Il y a la source première, mais il y a aussi, comme source secondaire, l'amour des frères, des sœurs, qui nous rend les forces. Et je pense que pour les chrétiens qui sont naturellement au service, il y a un risque d'usure. Vous savez, on parle du burn-out des soignants. Il y a parfois le burn-out des chrétiens. Et parfois, on se ressent être à sec. On a besoin de revenir vers le Christ. Et je pense aussi de demander de l'aide à nos frères et sœurs. Je pense à une personne que j'avais accompagnée en fin de vie, et c'était vraiment très difficile parce qu'elle était en abandon thérapeutique, vraiment reléguée au fond. C'était très très difficile. Isabelle accompagnait son épouse pendant que moi j'étais à ses côtés. Et à un moment donné, je savais que c'était vers la fin, je disais je dois y aller, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus, c'était trop usant. Et finalement, j'ai appelé au secours une chrétienne de l'église qui connaissait bien aussi cet homme et qui a pu, qui a pu venir à ses côtés parce que moi, je ne pouvais plus. Donc, ce qui nous aide aussi à tenir dans l'amour, ce qui renouvelle notre amour, c'est l'amour du Christ. Mais l'amour du Christ, il passe aussi par cet amour des frères et sœurs, aussi par ces mots d'amour. Ça fait du bien d'entendre quand l'amour est dit. Alors c'est un amour qui est une vraie affection. Le Christ ne nous invite pas à servir à l'affectif, mais avec affection. Alors si l'orgueil et l'égoïsme sont de grands ennemis du service, il y a aussi une fausse conception de l'amour qui est de fonctionner à l'affectif. Je me laisse entraîner par mon humeur du moment. Ça me plaît ou pas. C'est un amour plutôt impulsif que constructif. Ce n'est pas un amour qui se construit dans le temps, qui se tisse. Au fond, c'est un amour qui est centré sur soi-même, sur ses propres besoins, et pas sur les besoins de celui qui a besoin d'être aimé. C'est important, l'amour véritable, il se préoccupe des besoins du prochain. Tandis que celui qui est centré sur ses besoins, son besoin d'épanouissement, il ne se préoccupe pas des besoins du prochain. À l'église de Viry-Châtillon, j'avais invité quelqu'un qui nous a fait une formation à la communication non-violente. Alors, je pense que c'est intéressant. Bien sûr, ce n'est pas... Une technique ne nous sauve pas, mais elle nous fait prendre conscience d'un certain nombre de choses dans notre façon de communiquer. Est-ce qu'on est bienveillant? Est-ce qu'on est bienfaisant dans notre façon de communiquer? Et quand on est chrétien, eh bien, parfois on a besoin de prendre conscience de certaines choses. Et une chose que racontait cette formatrice, qui a été déclencheur pour elle, c'est qu'elle était en conflit dans son entreprise avec sa supérieure. Elle était plutôt créative, et la supérieure était plutôt dans les règles, le process. Et en fait, ce qui a débloqué les choses, c'est que cette femme a compris quels étaient les besoins de sa supérieure. Son besoin, c'était d'être rassurée que le travail allait bien être fait, Et à partir du moment où elle a compris ce besoin, elle a pu la rassurer tout en lui expliquant, son propre fonctionnement. Et je me dis, c'est quelque chose que j'ai retenu de cette formation, c'est parfois, de quoi tu as besoin? Parfois, on aide les gens sans leur demander de quoi ils ont besoin vraiment. Et ce n'est pas la même chose que de dire de quoi tu as envie. De quoi tu as besoin, c'est plonger plus profondément. Et on peut avoir peur de la réponse, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'amour. L'amour du Christ vous rend fort. Ce n'est pas nous qui pouvons donner tout l'amour. C'est en allant au Christ que nous sommes ressourcés pour donner cet amour. On a tous besoin d'être aimés. S'aimer les uns les autres, c'est construire des relations d'amour durables. C'est être attentif à ses frères et sœurs. Et nous ne pouvons le faire qu'en revenant à la source première, le Christ, pour alimenter la source secondaire, l'Église. Alors, je voudrais en venir sur ce problème de traduction au verset 5. Alors, c'est un peu agaçant pour les anciens, peut-être. Ils nous ont changé notre Bible. Pourquoi c'est plus comme dans la seconde? Alors, rassurez-vous, au fond, le message est le même. Les mots changent, mais le message reste le même. Et puis, il y a des traductions qui nous aident à mieux comprendre le texte. Et je trouve que c'est le cas de la traduction Parole de vie. Alors, vous me direz quand même, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ce n'est pas la même chose que comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Alors, il y a quand même une question de traduction là. Ayez en vous, en fait, on pourrait traduire « ayez entre vous ». Le grec peut vouloir dire « entre vous ». Et dans le contexte, c'est un contexte de relations entre chrétiens et de problèmes de relations, eh bien, c'est plus légitime de traduire « ayez entre vous ». Bon, jusque-là, ça va. Mais « ayez en vous les sentiments » ou « comportez-vous »,« ayez en vous les pensées ». Alors, le grec, le mot est bien celui qui veut dire « pensée », mais c'est un mot qui a un sens un peu plus large que simplement la pensée. Ça désigne une attitude. Ayez en vous, entre vous, donc une manière de penser, une manière de vous comporter. Voilà, c'est une manière d'être. Une manière d'être qui soit conforme à des gens qui sont unis au Christ. Donc, il ne faut pas opposer ici sentiment et comportement. Au fond, c'est des motivations qui débouchent, voyez, sur un comportement. Comportez-vous entre vous comme des chrétiens. On se dit, mais c'est évident, on met des chrétiens ensemble, ils vont se comporter comme des chrétiens. Non, c'est pas évident. Ben non, c'est pas si évident que ça. Et parfois, on se comporte mieux avec des gens du dehors qu'entre chrétiens. Vous savez, c'est un peu comme dans la famille parfois. Eh bien oui, on a besoin de nous rappeler entre nous que nous sommes frères et sœurs et que c'est le Christ qui nous unit et que donc il découle un comportement, des manières de parler, des manières de se comporter qui découle de cette unité avec le Christ. Alors vous savez, quelque chose qui pose beaucoup de problèmes d'unité, c'est la question de la place. Quelle est ma place dans l'église? Est-ce que j'ai assez de place? En cuisine. Une petite parabole d'un ami tchadien. Parabole de la cuisine. Alors, ce chrétien tchadien, il aime bien faire la cuisine. Mais il m'expliquait que dans sa culture, eh bien, c'est inimaginable qu'un homme fasse la cuisine et serve à table. C'est le travail des femmes. Et quand il est au pays, il essaye de faire la cuisine, mais les femmes l'en empêchent. Pourquoi ? Parce qu'il prend leur place. Parce qu'elles elles voient là leur valeur dans le fait de jouer, de cuisiner. Et c'est vrai qu'entre la cuisine et l'amour, il y a beaucoup de relations. On voit quand c'est cuisiné avec amour. Eh bien, au fond, chacun a sa place dans la cuisine de l'Église. Et il y a des boulots plus, disons, moins valorisants que d'éplucher les pommes de terre, mais c'est aussi utile. Mais il faut reconnaître à chacun sa place. Et c'est aussi dangereux, je pense à ces femmes qui voulaient monopoliser la cuisine, c'est dangereux que quelqu'un s'empare d'un service dans l'Église. C'est plus un service, c'est moi, c'est mon identité. Et c'est plus tourné vers les personnes. Alors, cuisinons pour nos frères avec amour. Par amour et non pour être aimer, parce que ne doutons pas que Dieu nous aime. Et puis cuisiner, ça demande de bien connaître les autres. Est-ce que vous êtes intolérante au gluten, Isabelle? Voilà, quand on reçoit quelqu'un, on se soucie que voilà, cette cuisine lui fasse plaisir. Eh bien, dans cet accueil qu'on a dans l'Église les uns pour les autres, eh bien, qu'on se soucie aussi de faire la joie de notre frère. Chacun à sa place, et ça demande de l'humilité, que chacun reste à sa place aussi dans l'Église, comme à la cuisine. Et quel est le signe d'un repas réussi ? La joie ! Ça produit de la joie. Alors que cette cuisine de l'Église puisse aussi produire de la joie, parce que le Christ nous donne la force de nous aimer les uns les autres. L'amour du Christ vous rend fort, alors soyez tous serviteurs de Dieu. Le signe de ce service sera la joie. Alors je voudrais vous laisser une petite image en conclusion. Voilà. Alors ça, c'est un dessin qui illustrait un article sur l'Europe et la difficulté pour l'orchestre européen de jouer l'hymne à la joie. Alors, on se le fait, cette ode à la joie ? On se la fait, cette ode à la joie, et on voit là les musiciens, alors qu'il n'en soit pas de même parmi nous, où chacun cherche son intérêt, hein, c'est un peu le problème de l'Europe, mais où par amour, voilà, nous symphonisons ensemble, en étant chacun à sa place, hein, il y a le triangle, il y a peut-être celui qui a balayé aussi avant, voilà, en donnant ce beau témoignage, je sais que l'église de Gobert aime chanter, donc je pense que cette image sera parlante, et aussi vu la préparation de la fête de Noël. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ton amour, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, merci parce que tu nous as tant aimés et tu nous appelles à nous aimer les uns les autres. Pardon, Seigneur, pour nos manques d'amour, pour notre ego toujours revenant. Seigneur, aide-nous à voir les besoins de nos frères, à avoir le cœur, les yeux ouverts. Seigneur, aide-nous à nous accueillir les uns les autres, comme tu nous as accueillis. Amen.